Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate 4. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mercredi 1er novembre 2023 sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Les États-Unis ne sont pas seulement complices, mais aussi les architectes et le cerveau du génocide israélien à Gaza. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le guide suprême de la révolution islamique a félicité les Palestiniens pour leur résistance et leur fermeté face aux atrocités israéliennes dans la bande de Gaza, affirmant que leur résistance a éveillé la conscience humaine. Les forces de l'armée israélienne ont bombardé le camp de Jabalia situé au nord de la bande de Gaza, provoquant le martyre d'au moins 200 Palestiniens et un grand nombre de manifestants, les mains couvertes de peintures rouges symbolisant le sang, ont interrompu une audience au Congrès américain, exigeant que Washington cesse de financer le meurtre par Israël de Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le leader de la révolution islamique a reçu mercredi matin 1er novembre un groupe d'étudiants et de lycéens iraniens au renseignement de l'imam Khomeini à Téhéran. À l'approche de la journée nationale de la lutte contre l'arrogance mondiale et de la journée nationale des lycéens, le 13 du mois d'Aban du calendrier persan, soit le 4 novembre, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a reçu en audience un grand nombre d'étudiants et de lycéens de tout le pays. Le 13 Aban marque l'anniversaire de la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, appelée en Iran le nid d'espionnage. L'Ayatollah Khamenei a déclaré que la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran par des étudiants en 1979 était un coup dur pour Washington. Les États-Unis ont été déshonorés le 4 novembre. C'était le coup porté par la nation iranienne à l'Amérique. Durant les jours fatidiques du mouvement révolutionnaire de la nation iranienne, la police du Shah a massacré des étudiants juste en face de l'université de Téhéran. C'était 10 mois après la victoire de la révolution, lorsque les étudiants sont entrés dans l'ambassade des États-Unis et ont découvert des documents confidentiels, a-t-il expliqué. Plus loin dans ses propos, le leader a félicité les Palestiniens pour leur résistance et leur fermeté face aux atrocités israéliennes dans la bande de Gaza assiégée, affirmant que leur résistance a éveillé la conscience humaine. Ce sur quoi les États musulmans doivent insister, c'est la cessation immédiate des crimes israéliens à Gaza. Ils doivent rapidement cesser les bombardements et arrêter l'exportation de pétrole et de produits alimentaires vers le régime sioniste, a-t-il renchéri. Les États musulmans doivent cesser leur coopération économique avec le régime sioniste, condamner explicitement ces crimes au sein des forums internationaux. L'ampleur et les circonstances de ce qui se passe doivent être clarifiées. Le régime sioniste doit être condamné et le monde musulman, tout entier, doit se mobiliser contre lui, ajoutait l'Ayatollah Khamenei. Le monde musulman ne doit pas oublier que tout au long du conflit à Gaza, le parti qui s'est opposé à l'islam et à la nation palestinienne opprimée étaient les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne. Dans ces transactions, ces équations et ces analyses, le monde musulman ne doit pas oublier les partis qui s'opposent au peuple opprimé de Palestine et qui exercent des pressions sur lui. Il s'agit simplement du régime sioniste, ajoutait l'Ayatollah Khamenei. La question centrale d'aujourd'hui n'est pas la guerre israélienne contre Gaza. La question centrale aujourd'hui n'est pas la guerre israélienne contre Gaza, mais plutôt la bataille entre la vérité et le mensonge, la lutte entre le pouvoir de la foi et le pouvoir de l'arrogance. Bien sûr, le pouvoir de l'arrogance s'accompagne de pressions militaires, de bombardements, ainsi que de calamités et de crimes, mais la puissance de la foi vaincra avec la grâce de Dieu, a-t-il renchéri. Les forces de l'armée israélienne ont bombardé le camp Jabalia, situé au nord de la bande de Gaza, provoquant le martyre d'au moins 200 Palestiniens. Au moins 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués ou blessés lors de frappes aériennes d'Israël sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza. Les avions de combat israéliens ont bombardé mardi après-midi, 31 octobre, le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza, déclenchant un nouveau massacre. Ashraf al-Radara, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, a déclaré « Ce qui s'est produit à Jabalia n'est pas le premier meurtre de civils par Israël. Avec nos ressources limitées, nous essayons de sauver les blessés sous les décombres. » Al-Radara a déclaré qu'en raison de la densité de la population, davantage de personnes ont probablement été tuées. Peut-être que le nombre de martyrs sera égal à celui des martyrs de la catastrophe de l'hôpital Al-Ahli. Le régime sioniste a déjà provoqué un grand désastre en bombardant l'hôpital Al-Ahli à Gaza fin octobre dernier. Ashraf al-Radara ayant annoncé que le nombre de victimes s'élevait à plus de 1000 personnes. Les bases de l'occupation américaine en Syrie ont été attaquées à plusieurs reprises ces derniers jours par roquettes et drones de la résistance islamique d'Irak. La résistance islamique d'Irak a affirmé ce mercredi 1er novembre avoir visé par deux drones la base américaine d'Al-Tanf, située dans l'est de la Syrie, à la frontière avec l'Irak. La base avait été ces derniers jours la cible de plusieurs attaques aux drones de la résistance irakienne, dont la dernière date d'il y a 4 jours. De même, des sources d'information ont rapporté hier mardi à Al-Mayadin que la base militaire américaine située dans le champ pétrolier d'Al-Omar, dans l'est d'Deir ez-Zor, en Syrie, avait été l'objet d'une attaque à la roquette. Plusieurs explosions ont retenti à l'intérieur de la base militaire américaine. Pour l'heure, aucun détail supplémentaire n'a été communiqué. L'agence de presse russe Sputnik a aussi rapporté que 2 explosions avaient eu lieu dans la base dues à une nouvelle attaque à la roquette. Des sources locales ont déclaré à Sputnik que l'attaque est une réussite, malgré la mise en alerte maximale dans toutes les bases américaines implantées à l'est de la Syrie. Suite à l'intensification de la guerre dans les territoires occupés de la Palestine, les bases américaines situées en Irak et en Syrie ont fait l'objet de plusieurs attaques, au cours desquelles des dizaines de soldats américains ont été blessés. Au Royaume-Uni, des militants pro-palestiniens se sont rassemblés dans une gare de Londres, appelant à la fin immédiate des atrocités commises par Israël dans la bande de Gaza assiégée. Plus de 500 manifestants ont organisé mardi un sit-in à la gare de Liverpool Street à Londres, aux heures de pointe, agitant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans tels que « La Palestine sera libre » et « Cessez le feu maintenant », alors que les nafteurs essayaient de se frayer un chemin à travers la foule. Des vidéos mises en ligne par le groupe féministe Sisters on Cut, qui a organisé le sit-in, selon leur publication sur X, montraient un grand groupe de manifestants remplissant la station. Des membres d'autres groupes militants tels que le mouvement de la jeunesse palestinienne et le réseau juif antisioniste international ont également rejoint la manifestation, appelant à la fin du soutien international aux actions d'Israël en Palestine et à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Manifestation de protestation contre Israël, cette fois-ci aux États-Unis, où un grand nombre de manifestants, les mains couvertes de peinture rouge symbolisant le sang, ont interrompu une audience au Congrès, exigeant que Washington cesse de financer le meurtre par Israël de Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. Les manifestants anti-guerre ont appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat, alors que le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, ont fait appel mardi à la commission sénatoriale des crédits pour obtenir des milliards de dollars supplémentaires provenant de l'argent des contribuables américains pour financer les forces militaires d'Israël, d'Ukraine et d'autres alliés de Washington. Ils ont dénoncé Washington pour avoir financé les forces du régime sioniste qui commettent le génocide de millions de Palestiniens dans les territoires occupés. Les mains couvertes de peinture rouge pour montrer que le gouvernement américain avait du sang sur les mains, ils se sont joints à la foule et ont crié à plusieurs reprises « Cessez le feu et protégez les enfants de Gaza ». Un manifestant a cité les milliers d'enfants palestiniens tués à Gaza depuis que les forces israéliennes ont lancé des frappes sur l'enclave côtière. Les manifestants anti-guerre se sont levés un par un alors que Blinken voulait commencer son discours avant de crier à nouveau sur lui. Il a été obligé de faire des pauses à plusieurs reprises. La police a rapidement escorté les manifestants et arrêté 12 personnes. La Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en raison des crimes contre l'humanité commis par le régime de Tel Aviv dans la bande de Gaza assiégée. le ministère bolivien des Affaires étrangères a fait cette annonce mardi. Après que des avions de combat israéliens ont bombardé le camp de réfugiés de Jabalia à Gaza. Au moins 400 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées ou blessées lors de ces frappes. Le Hamas a salué dans un communiqué la décision de la Bolivie de rompre ses relations avec le régime sioniste. Le Hamas a une nouvelle fois appelé dans ce communiqué les pays arabes musulmans à rompre complètement leurs relations avec ce régime voyou. Le Hamas a annoncé que cet appel s'inscrit dans le cadre de la victoire des valeurs humaines et de l'opposition à toutes les actions criminelles du régime contre les enfants et les civils innocents. De même, le Chili et la Colombie ont rappelé leurs ambassadeurs des territoires occupés de la Palestine pour des consultations, citant la guerre brutale et extrêmement meurtrière menée par le régime israélien contre la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis ne sont pas seulement complices, mais aussi les architectes et le cerveau du génocide israélien à Gaza. Alors que le cœur en faveur de la fin de la campagne génocidaire du régime israélien dans la bande de Gaza assiégée s'amplifie, il est de plus en plus évident qui est le véritable protagoniste et le cerveau de ce génocide. L'écrasante majorité des pays ont voté en faveur de la trêve humanitaire à Gaza lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière. Mais les États-Unis et certains de leurs États vassaux s'y sont opposés. Le vote a révélé de quel côté se trouvaient les Américains et leurs alliés, du côté de l'occupation et de l'apartheid. Cette résolution a été votée quelques jours après que le président américain Joe Biden s'est dépêché à Tel Aviv pour montrer son soutien au régime sioniste, alors même que les avions de combat israéliens continuaient de bombarder la bande de Gaza. À la veille de la visite de Biden, un avion militaire israélien a visé un hôpital dans le nord de Gaza, tuant près de 1000 personnes, des patients et des déplacés. Biden a refusé de condamner le régime sioniste, accusant plutôt l'autre camp d'être responsable de l'attaque, répétant le récit israélien. Il avait également colporté auparavant le mensonge israélien, selon lequel des enfants étaient décapités. Au cours de ce voyage éclair, il s'est considéré comme un sioniste et a répété une phrase qu'il avait prononcée en tant que sénateur en 1986. « S'il n'y avait pas d'Israël, nous devrions en inventer un. » Biden, cependant, n'est pas le seul Américain à se battre pour le régime occupant et à empêcher les efforts visant à la désescalade. De nombreux responsables américains actuels et anciens ont ouvertement exprimé leur soutien au régime. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui a été l'un des premiers responsables étrangers à débarquer à Tel Aviv après les événements du 7 octobre, a tenu une série de déclarations peu diplomatiques. Dans une interview accordée à NBC la semaine dernière, il a déclaré qu'Israël devrait déjà élaborer une stratégie pour déterminer qui dirigera la bande de Gaza assiégée après que le Hamas aura été rayé de la scène. En effet, il faisait écho à ce que Netanyahu avait déclaré plus tôt, à savoir que l'élimination du Hamas était l'objectif définitif d'Israël. Le soutien inconditionnel au régime sioniste de la part des anciens et actuels dirigeants américains au plus haut niveau a incité de nombreux experts à suggérer que Washington est l'acteur clé dans cette guerre. Il n'est pas simplement complice de ce qui se passe dans la bande de Gaza assiégée, mais il est l'ingénieur, l'architecte et le principal cerveau de cette campagne génocidaire contre le peuple palestinien. We'll be right back.
Bonjour à tous. Le sujet du jour de notre débat depuis ces 15 jours, et notamment concernant la Palestine, plus de 15 jours d'attaque, plus de 15 jours de tuerie, un génocide. Ce sont les termes des experts connaissant bien la situation à Gaza. Je vous propose tout d'abord un reportage qui vous réunira la situation, parlant notamment des États complices du génocide provoqué par l'entité sioniste sur Gaza, mais également sur toute la Palestine, parce qu'on ne parle pas assez également des morts également en Cisjordanie. Et là, on ne parle pas du Hamas. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose donc tout d'abord notre reportage.
Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lors d'une rencontre ce mercredi 25 octobre avec des membres du congrès de commémoration des martyrs de la province de Lorestan que les États-Unis sont les complices définitifs des crimes du régime sioniste à Gaza. La présence des dirigeants des pays tyranniques et méchants dans les territoires occupés témoigne de leur inquiétude face à la désintégration et l'effondrement du régime sioniste, a-t-il fait remarquer. Les États islamiques ne devraient pas rester passifs. La victoire définitive appartient à la Palestine, a-t-il affirmé. La population de Gaza est réellement opprimée et cet ennemi impitoyable et sanguinaire, le régime terroriste usurpateur, ne connaît aucune limite à ses crimes. Il tue un millier de personnes en un seul bombardement. Il n'y a pas de limite. Ce peuple est opprimé, mais il y a deux points importants à mentionner. Le premier est la patience dont il fait preuve et le fait qu'il s'appuie sur Dieu. Le deuxième point important est que le coup porté par les attaques des combattants palestiniens contre le régime usurpateur a été un coup décisif. Ils n'avaient jamais subi un tel coup. Comme je l'ai déjà dit, plus le temps passe, plus il est évident que cet échec est irrémédiable. Et de renchérir, les combattants palestiniens ont gardé leur esprit, sont restés motivés et se sont montrés capables et prêts à agir. Et si Dieu le veut, il en sera désormais de même. Et le régime usurpateur se venge de la population sans défense de Gaza en raison de son incapacité à faire face à la résistance. Qualifiant Washington de complice définitif des criminels sionistes, l'ayatollah Khamenei a noté « Les mains des Américains sont tachées du sang des enfants, des femmes et d'autres martyrs de Gaza. En réalité, ce sont les Américains qui gèrent d'une manière ou d'une autre les crimes commis à Gaza. »
Alors, c'est bien la responsabilité des États autres que l'État sioniste qui est visé dans ce débat d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons faire venir donc nos deux invités, les présenter. Si vous ne les connaissez pas, nous avons d'abord Madame Midani, notamment expert des questions syro-françaises. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à vous, bonjour à votre invité, bonjour à toute l'équipe.
Merci Madame Midani. Alors, deuxième invité, vous la connaissez ou pas encore, le professeur Madame Obola, présent sur Beyrouth, bien au courant de la situation palestinienne, au vu notamment de la situation elle-même libanaise. Bonjour, professeur Obola.
Alors, bonjour et merci pour m'avoir invité à votre plateau et je salue votre invité.
Merci, Madame Professeur Obola. Alors, professeur, je vais commencer par vous. Sachant la situation à l'actuelle de la Palestine, notamment de Gaza, mais on n'oublie pas la Cisjordanie qui est touchée toujours par des morts également. Donc, pour Gaza, le leader de la révolution islamique a bien indiqué que finalement, les États complices sont bien visibles du fait notamment de leur veto lors des assemblées extraordinaires qui sont passées à l'ONU. Il y a un véritable blocage politique et géopolitique de la part d'une partie du continent, alors qu'on va dire que 70% du reste du monde souhaite la fin de ce conflit, souhaite la fin de ce génocide.
Alors d'abord, souhaite la fin de ce conflit, cela suppose qu'il y a des belligérants. Alors là, on n'est pas dans un conflit, on est devant un massacre. Il n'y a pas de troupes ou forces qui sont en train de se battre proprement dit sur le terrain. On a des avions, on a une machine de guerre israélienne qui est en train de massacrer tous les jours des femmes et des enfants. Toutes les 15 minutes, il y a un enfant qui meurt. Donc, elle est où cette bataille, premièrement. Le jour où ils décideront, et là je doute fort, de déclencher une incursion terrestre, alors là on va commencer à compter et à parler véritablement de bataille. Concernant la responsabilité de la communauté internationale occidentale, parce qu'il faut bien préciser, pas tout le monde, cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois depuis la création de l'entité sioniste que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ont toujours soutenu l'entité sioniste. Et je rappelle que le premier médiateur onusien qui a été nommé au lendemain de la création de l'ONU, c'est-à-dire au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la communauté internationale est censée être culpabilisée, a retenu les leçons de l'atrocité de la Deuxième Guerre mondiale, et ben non, puisque cet émissaire qui était venu en 1949 et qui est le comte Bernadotte en Palestine occupée, pour justement proposer et tenter d'imposer la solution de deux États palestiniens, sachant qu'il était marié à une juive, sachant que durant la Deuxième Guerre mondiale, il a libéré plus de 17 000 juifs des camps de concentration nazis. Malgré cela, il a été assassiné par les Israéliens, par un groupe terroriste. Et comment a réagi la communauté internationale ? Rien. Donc, depuis ce jour, et on assiste à une oppression sans précédent, une injustice vis-à-vis d'un peuple, qui est le peuple palestinien, à savoir, on lui a volé ses terres. Et aujourd'hui, on victimise, ou plutôt l'entité sioniste se victimise en disant comment ils ont osé nous attaquer. Mais ce sont eux les propriétaires de cette terre. Ils ont le droit de se défendre. Et en plus, après des dizaines d'années d'embargo sur la bande de Gaza, qui n'est autre qu'un immense camp de concentration, toute cette guerre contre ce peuple palestinien ne peut que se terminer par, à mon avis, soit une guerre totale, soit il faudrait qu'il y ait une pression de la part des États-Unis sur l'entité sioniste pour qu'ils acceptent les deux États, et cela ne se passera jamais pour la simple raison que ce qui s'est passé ce jour, le jour du 8 octobre, est différent de toutes les autres guerres, de toutes les autres batailles, pour une seule raison, c'est qu'il y a eu une initiative, c'est l'armée Tsahal, qui veut dire en hébreu l'honneur de la nation juive, et Tsahal est collé à l'identité sioniste, qui est collé à la représentation géopolitique de l'entité sioniste, qui est de faire un grand projet, qui est le projet du grand Israël. Tout ça a été en 3 heures complètement détruit. Donc on comprend pourquoi Netanyahu est en train de déclarer que c'est une guerre d'existence. C'est une guerre, non, pas de survie, ce n'est pas une simple bataille, ce n'est pas une guerre de volonté. Nous sommes en train de vivre une guerre des identités, entre l'identité palestinienne qui a le droit à cette terre, une terre qui a un peuple et qui a un gouvernement, entre guillemets, un gouvernement qui est l'autorité palestinienne, et un autre qui est venu, qui a volé cette terre.
Madame Ouboula, je me permets de vous interrompre pour bondir sur ce que vous êtes en train de dire. Alors, je vais renchérir avec notre deuxième invitée, Madame Midani, qui, elle, se trouve en Syrie, qui a également connu, comme vous-même, l'occupation de près, puisque la Syrie, le Golan syrien, est également occupé. Alors, Madame Midani, il y a quand même un aspect qu'on ne parle pas assez, c'est que ces dernières années, contrairement à la situation qui a pu se passer en Irak ou en Syrie, ou les autres génocides du monde entier où ça n'a jamais été documenté d'un point de vue visuel, la Palestine, depuis ces dernières années, on peut parler de ces 10 dernières années, tout est documenté. Il y existe énormément de vidéos de ce qui se passe en Palestine occupée, de ce qui se passe par les faits de cette entité sioniste qui viennent prendre, voler les maisons habités des Palestiniens. On a également beaucoup de vidéos où des Français ou des Européens viennent en Palestine occupée voir la situation de leurs propres yeux, parfois chrétiens, parfois juste non chrétiens, qui étaient même parfois favorables à l'entité sioniste, apprenant qu'il existe des associations De l'entité sioniste pour aider les Palestiniens à finalement récupérer peut-être certains droits d'un point de vue juridique. Donc la documentation est là. Et pourtant, là où on parle d'un état de droit, on parle notamment des pays occidentaux, puisque pour les Occidentaux, le droit est la seule chose existante, réelle. Le droit n'est pas respecté, puisqu'il y a eu des traités, hein, on parle notamment du traité d'Oslo, il y a eu des propos tenus par ce Premier ministre, on va dire extrémiste, qu'on présente au niveau des journaux Netanyahou, où il parle très clairement de ce qu'il veut faire des territoires occupés, de ce qu'il veut faire des Palestiniens, et pourtant, encore une fois, ce sont les pays occidentaux qui ont prôné ces valeurs, on va dire, démocratiques, humaines, qui bloquent toute possibilité d'avancement concernant la situation palestinienne.
Écoutez, je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous parlez seulement de ces dernières années. Il y a eu effectivement peut-être pas mal d'ONG qui sont arrivées en Palestine et qui ont filmé, Mais au-delà des ONG, les responsables occidentaux, comme les journalistes, beaucoup de journalistes occidentaux savent parfaitement que c'est une usurpation de pays depuis le début, de terres, qu'il y a tous les jours des grands crimes de destruction de maisons et poussant les gens à la rue. Et pour les pousser à l'exode, pour les pousser à s'exiler ailleurs. Il y a aussi ces mêmes pays occidentaux qui offrent aussi des possibilités de refuge à tous les Palestiniens et qui leur facilitent aussi le fait de quitter le pays. Il y a aussi des crimes quotidiens, pas seulement à Gaza, comme l'a bien précisé Dr Kada, mais dans toute la Palestine. Et aussi, il y a une volonté de pousser l'ensemble des habitants du Golan à aller ailleurs. Alors, je rappelle quand même que le Golan est occupé depuis 67, que les habitants du Golan aussi résistent et refusent de quitter leurs terres. Et bien, la réponse, c'est toujours la répression, c'est toujours l'horreur, c'est toujours la destruction de leur culture, la destruction de leurs agricultures, c'est aussi effacer cette civilisation qui existe depuis des millénaires, c'est effacer le fait que les Palestiniens sont les propriétaires de la terre, et donc ils le savent en fait. Alors, on revient à ces pays qui soutiennent Israël aujourd'hui. Qui sont-ils? C'est l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, tous les pays qui sont impérialistes, qui étaient eux à l'origine de la création de l'État d'Israël. Il faut le rappeler aussi, en 1916, il y a eu la promesse Balfour, c'était aussi promettre aux Juifs un pays d'échange, hein, mais on ne sait pas en échange de quoi. Parce que déjà en 1916, il n'y avait pas ni le nazisme, ni la répression des Juifs en Allemagne. Mais aussi, on sait à croire aussi que cette répression des Juifs en Allemagne a été faite pour faciliter le projet sioniste. Et maintenant, de plus en plus, on voit la connivence historique du nazisme avec le sionisme, qui sont d'ailleurs tous les deux contre les Juifs. Et c'est une instrumentalisation des Juifs, leur faisant croire que c'est un pays où ils seront tranquilles, où ils seront seuls. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme, c'est le fruit de l'Occident et de ces pays impérialistes qui sont très antisémites et ils voulaient se débarrasser des Juifs chez eux. Mais en fait, l'objectif, il n'est ni antisémitisme, ni une question de religion. L'objectif, c'est mettre la main sur la région, avoir que les impérialistes puissent avoir toujours une extension dans la région qui inévitablement va se libérer, même quand elle était sous la domination ottomane et puis la domination anglaise, bref, française, puis américaine, etc. C'est une région qui est très riche en pétrole, c'est une région qui est très riche en terres fertiles, et elle est aussi très riche en civilisation. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi mettre la main sur tout ça et avoir toujours cette extension impérialiste. Aujourd'hui, on voit ce sursaut de l'impérialisme et du sionisme qui est en perte de vitesse, qui s'écroule dans le monde. Les États-Unis, avec la création, l'ébauche du nouveau monde multipolaire, ils sont affolés à l'idée de perdre leur contrôle sur le monde. Et sur cette région en particulier, ils ont perdu la guerre en Ukraine. Ils essayent de garder au moins un peu de richesse sur la région au Moyen-Orient. Et surtout, couper aussi le chemin de la route de la soie à la Chine, donc aussi à ce grand projet qui est vraiment fédérateur d'un nouveau monde et fédérateur de toutes les... de tous les pays de l'Asie et de l'Europe.
Merci, Madame Dany.
On peut dire pour un peuple, pour un pays, pour un monde qui est exempt de répression, exempt de domination, d'hégémonisme, où tout le monde se traite en égal, d'égal à égal, où tous les pays ont le même poids et ont le même respect. Alors, la domination
aussi... Merci, Madame
Dany. Excusez-moi, juste une dernière phrase. Juste la domination des États-Unis sur les instances internationales fait que ces instances internationales, l'ONU, trahit elle-même sa propre charte et trahit elle-même ses propres principes en défendant les positions américaines et occidentales.
Merci, Madame Dany. Alors, Madame Adaobola, professeur Adaobola, alors pour revenir un peu à ce que vous avez dit, il y a donc cette situation décrite par Madame Dany, la trahison des membres de l'ONU fait à la charte elle-même. On a également la situation du fait que finalement, plusieurs parlementaires, que ce soit le Congrès américain ou par exemple français, il y a des franco-israéliens ou des américano-israéliens au sein même des structures juridiques, des structures parlementaires de ces pays. Ça, c'est une question qui pourrait former un autre débat. Mais il y a également le fait que la Chine, donc cette semaine, a fait venir ses trois navires dans la région. On voit également les pays arabes être extrêmement discrets et extrêmement prudents dans leur manière de bouger, que ce soit du côté du Liban, que ce soit du côté de la Syrie ou de l'Irak. Vous-même qui êtes là-bas dans la région, comment vous expliquez cette prudence de la part de l'axe de la résistance ?
De la part de la résistance islamique, la prudence dans la gestion de cette bataille, vous voulez
c'est
dire ?
C'est ça, tout à fait.
À commencer déjà par le silence stratégique du secrétaire général du Hezbollah, un silence qui perturbe énormément l'entité sioniste, même les États-Unis, parce qu'ils ont besoin de savoir à travers son discours comment se déroulera cette bataille. Est-ce qu'elle sera ouverte? Est-ce qu'elle restera restreinte dans la frontière sud du Liban avec la Palestine occupée? Jusqu'à maintenant, il y a eu 50 martyrs qui sont tombés du côté libanais au niveau de la résistance islamique. Or, il faut savoir ce que le Hezbollah est en train de faire, ou la résistance islamique est en train de faire sur la frontière, c'est qu'elle est en train d'ouvrir le feu. Elle a détruit plus de 30 sites militaires de surveillance et d'espionnage. Elle a respecté ce qu'on appelle les règles de l'affrontement ou du conflit, qui étaient instaurées depuis la guerre de 2006, la deuxième guerre israélo-libanaise en 2006. Cette frontière a une longueur de à peu près 153 km. À peu près, c'est la même frontière qui est entre l'Ukraine et la Russie. Donc, imaginez l'exploit qui est en train de se réaliser au niveau de la frontière sud du Liban, grâce à la résistance islamique, qui est en train de brouiller d'abord les plans de toute incursion terrestre de la part de Netanyahou, puisqu'il y a trois brigades israéliennes qui sont tout le long de cette frontière. Donc, il ne peut pas, et il a été obligé, ce qui a forcé d'ailleurs le Premier ministre Netanyahou de faire venir les réservistes si jamais il voulait faire une incursion terrestre contre la bande de Gaza, d'une part. Et d'autre part, tout le monde, la majorité des scénarios, et moi j'étais en train de suivre vraiment les médias israéliens juste avant cette bataille. À chaque fois qu'on voulait parler de la menace du Hezbollah, de la menace de l'axe de la résistance, on parlait toujours du scénario selon lequel il y aura des milliers de missiles qui tomberaient sur Tel Aviv, qui sera détruite, etc. Or, ce qui les a surpris, c'est que ce n'était pas le cas. En fait, ils s'attendaient à ça, surtout après le massacre d'un des hôpitaux à Gaza, où il y a eu en quelques heures 500 martyrs. Là, ils s'attendaient à ce que, bien entendu, le Hezbollah riposte. Et à ce moment-là, c'est ce que essaie autant que possible de faire le Premier ministre Netanyahu, parce qu'il n'a plus rien à perdre au niveau politique. Et donc, il veut absolument, c'est son rêve depuis des années, il veut absolument entraîner une guerre directe entre l'entité sioniste, entre le Hezbollah et les États-Unis, mais encore mieux entre les États-Unis et directement avec l'Iran. Et donc, cela n'a pas eu lieu. Et ce qui les a encore plus surpris, c'est qu'ils sont en train d'être très, très, très raisonnables. Chaque frappe est calculée. Tout est dirigé de manière très rationnelle. Au lieu d'envoyer ces milliers de missiles, eh ben, au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait bouger le Yémen, les missiles du Yémen. Et hier, il y a eu deux attaques contre des forces israéliennes en Érythrée, tuant un haut officier. Et là, il y a eu un silence complet jusqu'à ce jour, une censure, silence complet sur cette information qui a été diffusée par la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen. Et cette base, c'est une base qui est très importante puisqu'elle abrite la flotte aérienne, la plus importante flotte aérienne de l'entité sioniste. Encore, il y a eu des missiles qui sont tombés à l'intérieur de la zone verte durant la fin de la première semaine. Et on s'en est suivi des missiles aussi qui sont tombés tout le long de la frontière syro-irakienne, là où il y a des bases. Et,
Madame professeur Obola, malheureusement, on arrive à la fin du débat. Donc, si vous voulez conclure en quelques mots, la question que je vous ai posée, je vous permets de conclure parce que sinon, là, on arrive à la fin de notre débat, malheureusement. Et désolé de vous interrompre.
La conclusion, c'est que c'est une guerre qui sera longue, comme l'ont dit. L'establishment militaire israélien, mais à laquelle sont préparés, et ils ont déclaré qu'ils étaient prêts, tout l'axe de la résistance.
Merci,
et personne ne peut prédire ce qui va se passer.
Merci, professeur Bola. Merci, Madame Midani. Je rappelle le sujet qui était le côté complice des États occidentaux concernant donc le génocide qui se passe actuellement en Palestine et notamment à Gaza. Madame Midani, je vous remercie pour votre expertise. Professeur Bola, de même, merci également pour votre expertise. Chers auditeurs, se finit notre débat du jour. Au revoir et à bientôt.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Aziz Nasirzadeh, a félicité l'aviation de l'armée de terre de la République islamique pour ses prouesses militaires et ses capacités d'engagement au combat, déclarant que cette force peut mener diverses opérations 24 heures sur 24 et sans escale. Même si l'autorité des forces armées iraniennes plaît aux alliés et amis de l'Iran, elle suscite pourtant la colère des ennemis, a déclaré dimanche 29 octobre le général Nasirzadeh. Il a ensuite évoqué les exercices RT-DAR 1402 qui ont eu lieu dans la région de Nasrabad, dans la province centrale d'Ispahan, où des munitions intelligentes avec une précision extrême ainsi que des armes à longue portée ont été utilisées. L'aviation de l'armée de terre de la République islamique a prouvé qu'elle pouvait mener différentes opérations 24 heures sur 24, a noté le général. Les hélicoptères de l'aviation de l'armée de terre, équipés de systèmes de vision nocturne, effectuent des sorties nocturnes pour envoyer des troupes et peuvent mener des opérations de surveillance et de combat, les premières du genre depuis des années, au cours des deux jours de manœuvre. Les forces militaires iraniennes organisent des exercices de routine afin de renforcer leur préparation combat. Dans le cadre des exercices RT-DAR 1402, l'armée de terre iranienne a renforcé son pouvoir de dissuasion face à toute menace potentielle. Le président iranien a salué la récente condamnation des crimes du régime sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza siégée par l'Assemblée générale des Nations unies, qualifiant cette action de réalisation importante. Vendredi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté avec une écrasante majorité une résolution réclamant une trêve humanitaire dans la bande de Gaza, qui est soumise à une guerre dévastatrice menée par Israël depuis 3 semaines. L'Assemblée a donc voté en faveur de la résolution présentée par la Jordanie au nom du groupe des États arabes avec 120 voix pour, 14 voix contre, dont celle d'Israël et des États-Unis, et 45 abstentions. La résolution appelle notamment à une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue, à ce que toutes les parties respectent le droit international et à une aide continue et sans entrave dans la bande de Gaza. Le président iranien a souligné que tous les musulmans et les peuples libres du monde soutiennent le peuple opprimé de la Palestine. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré mardi 31 octobre à Doha, Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Les deux parties ont discuté de la situation à Gaza. À la tête d'une délégation politique, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé à Doha mardi pour s'entretenir avec des responsables qataris. Après avoir rencontré le cheikh Tamim Ben Ahmed Al Thani, émir du Qatar, et le cheikh Mohammed Ben Abdourahman Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le ministre iranien s'est entretenu avec Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Il s'agit de la deuxième rencontre entre Amir Abdollahian et Haniyeh au cours des deux dernières semaines. Exprimant ses hommages aux martyrs palestiniens, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que la nation palestinienne et la résistance étaient les grands vainqueurs sur le terrain et que le régime sioniste s'était effondré. La région est désormais à un tournant décisif et ce sont les groupes de résistance qui prennent les décisions majeures. Par conséquent, aucune des parties ne sera à l'abri des répercussions irréversibles de la poursuite des crimes israéliens, a-t-il dit. Les responsables palestiniens de la bande de Gaza assiégée affirment que le régime sioniste a largué près de 20 000 tonnes d'explosifs sur le territoire dans le cadre de son agression en cours. L'armée d'occupation israélienne a largué plus de 18 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza depuis le début de son agression, il y a 24 jours, a déclaré lundi 30 octobre le bureau des médias du gouvernement de Gaza dans un communiqué. Le communiqué ajoute que 10 000 personnes ont été tuées ou sont toujours portées disparues à la suite des bombardements intensifs du régime, qui ont également provoqué des dégâts à grande échelle. Le bureau indique aussi que 50 tonnes d'explosifs ont été larguées jusqu'à présent sur chaque kilomètre dans la bande de Gaza. Cette déclaration intervient après que le bureau des médias du Hamas, mouvement de résistance palestinien basé à Gaza, a déclaré la semaine dernière qu'Israël avait bombardé Gaza avec plus de 12 000 tonnes d'explosifs. Il a ajouté que cela équivalait à la puissance de la bombe nucléaire larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima. Il a aussi noté que les menaces israéliennes d'invasion terrestre de Gaza étaient sans fondement. L'ennemi a largué des centaines de tonnes de bombes sur la bande de Gaza. L'intensification des bombardements et l'escalade des tensions israéliennes montrent que les occupants ne font aucun cas des lois internationales, a par ailleurs affirmé le porte-parole du Hamas. Alors que la lutte incessante contre le régime israélien entrait dans son 24e jour, Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que Sanaa avait pris pour cible les territoires occupés par une salve de missiles balistiques et de drones. Il a ajouté que la résistance yéménite était prête à lancer davantage d'opérations contre l'occupation israélienne. Il a indiqué que dans le cadre de sa troisième opération en soutien à la résistance palestinienne, l'armée yéménite a mené une attaque de drones et de missiles à grande échelle contre diverses cibles de l'ennemi sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Il a souligné que les attaques de drones et de missiles de l'armée yéménite se poursuivraient tant qu'Israël continuerait ses attaques sur Gaza. Le général Yahya Sari a précisé que la position du peuple yéménite envers la cause palestinienne était claire. Il a mis l'accent sur le fait que le peuple palestinien a pleinement le droit à la légitime défense. Il a dit que ce qui déstabilise la région et élargit le cercle du conflit, c'est la poursuite des crimes et des meurtres perpétrés par le régime sioniste contre la population de Gaza et de toute la Palestine. Plutôt, les médias israéliens ont rapporté qu'un drone avait frappé Eilat depuis la mer Rouge, sur fond de spéculations, selon lesquelles il proviendrait du Yémen. Un drone venu de la mer Rouge a pénétré dans les territoires palestiniens occupés et s'est dirigé vers Eilat. Israël prétend de l'avoir intercepté. Les médias israéliens avaient précédemment rapporté que des sirènes d'alarme avaient retenti à Eilat. Un responsable israélien à Eilat a fait part du renforcement des systèmes de défense aérienne dans les environs d'Eilat, de manière très significative. Dans ce contexte, le premier ministre du gouvernement de salut national du Yémen, Abdelaziz Ben Abtour, a souligné que la distance entre Sanaa et la Palestine ne crée aucun obstacle à la résistance yéménite pour frapper les positions israéliennes dans les territoires occupés. Le secrétaire général de l'organisation Badr, Hadi Al-Ameri, a déclaré que les États-Unis ne pouvaient plus justifier le maintien de leurs troupes dans le pays. Il a déclaré lundi qu'il est temps pour les forces de la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, de quitter l'Irak, car leur présence n'est plus nécessaire ni justifiée. Hadi Al-Ameri a ajouté que tant qu'ils seront présents, personne ne s'attend à renforcer les capacités militaires de l'armée irakienne et des autres institutions de sécurité. Il a estimé qu'il était honteux que certains suggèrent que les troupes américaines restent dans le pays sous prétexte d'aider les forces de sécurité irakiennes, en particulier après les grandes réalisations de l'armée et de la résistance irakienne dans leur lutte contre Daesh. Le chef de l'alliance Al-Fat au Parlement irakien a déclaré que le gouvernement irakien devait prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir un calendrier de retrait précis et à court terme des forces de la coalition internationale en Irak, sans aucune tergiversation. Il a souligné que le ciblage des bases d'Ayn al-Assad et d'Al-Arir par les troupes américaines était une réaction naturelle envers les États-Unis et leur parti pris envers l'entité sioniste, alors qu'ils commettaient des crimes de guerre contre la population de Gaza. Al-Ameri a souligné que de tels crimes de guerre resteront une honte pour l'entité sioniste et ceux qui la soutiennent.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.